C'est un grand privilège pour moi d'être ici parmi vous. Et je commence ce matin avec la lecture de la Sainte Parole, Matthieu chapitre 27, à partir de verset 27. Matthieu 27, 27 jusqu'à verset 51. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis ils s'agenouillèrent devant lui en se moquant de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu dit Golgotha, ce qui signifie « lieu de crâne », ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Afin que s'accomplisse la parole du prophète, ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. On plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent alors crucifiés deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui. Et disait, il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani !» C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, il le fixa à un ressaut et lui donna à boire. Mais les autres dirent, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. Ainsi la parole de Dieu. Il faut reconnaître que dans l'ensemble, le roi s'était révélé à la hauteur de son statut. Il avait réunifié les tribus. Il avait constitué celle-ci en une nation véritable et avait jeté les fondements d'une solide dynastie. Animé de courage, il avait mis en place un système de défense impressionnant et il avait assuré la sécurité des frontières de sa nation. Il s'est montré un habile administrateur et, de manière générale, il avait exercé la justice avec équité. Et à tout cela s'ajoutait encore le fait qu'il était gratifié d'un talent poétique et musical indéniable. Mais à l'étape mitoyenne de sa vie, ce roi illustre a séduit une jeune femme de son voisinage immédiat. Vous connaissez l'histoire. Et après l'adultère et le meurtre de l'époux de la séduite, Dieu a envoyé le prophète Nathan à David. Tout fidèle qu'il était, Nathan a jugé qu'il valait mieux aborder le monarque avec prudence. Et il a amorcé devant lui un récit. Il lui a dit à peu près, « Votre Majesté, je suis aux prises avec un cas difficile en province. Voilà la situation. Il y a ces deux hommes, voisins l'un de l'autre. Le premier est un riche éleveur, propriétaire d'une quantité considérable de troupeaux. L'autre est un pauvre paysan qui pratique une agriculture de subsistance. Il n'a pour tout cheptel qu'une seule petite brebis, rien d'autre. En fait, cette brebis, il ne l'a même plus. Des visiteurs se sont présentés un jour chez son riche cousin et celui-ci, désireux d'exercer l'hospitalité en offrant un festin à ses invités, est allé voler la petite brebis du pauvre paysan au lieu de prendre l'une des bêtes de ses troupeaux. Que pense Sa Majesté de cette affaire? Que faut-il dire? Que faut-il faire? » David est indigné. Il s'écrie, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra au quadruple la brebis pour avoir commis cette action et pour avoir agi sans ménagement. » David, bien sûr, n'a pas idée à quel point son exclamation est porteuse d'une, ô combien cruelle, l'ironie. Le prophète Nathan, lui, le sait. L'écrivain sacré le sait. Dieu le sait, et les lecteurs le savent, mais Dieu est incapable, lui, de détecter l'implacable ironie qui s'échappe de sa bouche jusqu'au moment où Nathan déclare « Tu es cet homme ». Nous savons tous ce que c'est l'ironie. C'est une manière de parler qui consiste à dire le contraire de ce qu'on veut faire entendre. Parfois, bien sûr, l'ironie est intentionnelle. Le locuteur est conscient qu'il use d'ironie. Mais parfois, comme dans le cas présent, le locuteur ne sait pas que ses paroles sont ironiques jusqu'à ce que son hypocrisie soit démasquée. Alors qu'il croit tenir le discours d'un juge compétent qui rend des décisions équitables et droites, David tient des propos qui ne servent qu'à mettre au jour sa vie secrète et qui font de lui un lamentable hypocrite. Comprises dans ce contexte plus large, les paroles de David n'ont d'autre signification que de condamner son appel, de le condamner complètement de sa propre bouche. L'ironie peut être féroce ou cruelle, comme elle peut être aussi être extrêmement comique. Très souvent, c'est l'ironie qui, dans une narration, attire l'attention de l'auditeur ou du lecteur sur tel ou tel élément de l'intrigue. L'ironie confère alors au discours une profondeur et une couleur qui seraient absentes autrement. Parmi les auteurs du Nouveau Testament, ce sont Matthieu et Jean qui usent le plus fréquemment de l'ironie. Dans le passage devant nous, Matthieu met en évidence ce qui est en train de se produire au moment où Jésus est crucifié. Mais il le fait au moyen de quatre grandes ironies qui attirent l'attention du lecteur vigilant sur ce qui est vraiment en train de se produire au moment de la crucifixion. Je rappelle le contexte du passage. À ce point du récit, Jésus a exercé son ministère public pendant 2 ou 3 ans. À présent, cependant, il est devenu l'objet de l'hostilité ouverte des autorités politiques et religieuses. Ces hommes sont jaloux de la popularité de Jésus, ils craignent son pouvoir politique potentiel et ils questionnent ses motivations. Ils se demandent si le nombre croissant de ses disciples ne va pas mener à un soulèvement contre la superpuissance du temps, le puissant empire romain. Car une révolte contre Rome finirait certainement noyée dans le sang. Jésus doit être liquidé. Ils organisent un tribunal irrégulier, déclarent Jésus coupable de trahison. Ils arrangent pour que le gouverneur romain prononce la sentence d'exécution par crucifixion. Tout cela, pense-t-il, allait servir utilement les intérêts politiques nationaux. Et sur le plan religieux, tout serait pour le mieux. Dans Matthieu 27, 27 et les versets qui suivent, nous reprenons le récit au moment où la peine de mort a été prononcée. En ce temps-là, un condamné ne moisissait pas dans le couloir de la mort. Une fois l'arrêt de mort rendu, on conduisait le prisonnier au lieu d'exécution en dedans de quelques heures. Dans le passage que nous avons sous les yeux, nous trouvons les soldats s'apprêtant à exécuter Jésus. En serrant de près le texte de Matthieu, nous sommes conduits à réfléchir sur 4 profondes ironies de la croix. Premièrement, l'homme dont on se moque en le disant roi est bel et bien roi. Verset 27 à verset 31. Selon toute vraisemblance, Jésus a été flagellé une première fois lors de son interrogatoire préliminaire. Et il a de nouveau été soumis au fouet une fois que la sentence de crucifixion a été prononcée, verset 26. C'était la façon habituelle de procéder. On fouettait les prisonniers avant de les mener au supplice final de la croix. Mais ce que nous lisons au verset 27 à 31 ne fait pas partie de la manière habituelle de procéder. Il s'agit plutôt ici d'une forme extrêmement sinistre d'humour, de caserne. Les soldats du gouverneur entourent Jésus, lui arrachent ses vêtements et le drapent d'une sorte de tunique écarlate, puis ils s'amusent à faire comme si Jésus était une personnalité royale. Ensuite, ils tressent quelques rameaux de plantes épineuses, hérissées d'aiguillons de 15 à 20 centimètres de long. Ils en font une grossière couronne d'épines qu'ils lui enfoncent brutalement sur la tête. Ensuite, ils placent dans ses mains une tige quelconque tenant lieu du sceptre royal. Puis, les soldats se courbent devant lui en le raillant. « Salut, roi des Juifs! » « Salut, roi des Juifs !» alternant leur paradis de salutations de coups de poing. Mais Matthieu sait, le lecteur sait, et Dieu sait que Jésus est véritablement le roi. Et afin de s'assurer que nous n'avons pas perdu de vue le thème royal, Matthieu nous le rappelle 2 autres fois dans les versets qui suivent. Le Titulus, le chef d'accusation de Jésus, est cloué sur la croix au-dessus de sa tête. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Verset 37. Et la foule des moqueurs le qualifie ironiquement de roi d'Israël au verset 42. Plus important encore, Matthieu a déjà imprégné son évangile de ce thème. Le tout premier verset du livre se lit comme suit. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Fils d'Abraham. Cette généalogie est organisée quelque peu artificiellement en 3 séries de 14 générations. La quatorzaine centrale couvrant les années pendant lesquelles la dynastie davidique a régné à Jérusalem. Même le nombre 14 est la représentation en hébreu du nom David. Toutes les promesses de l'Ancien Testament qui anticipent la venue d'un roi davidique ont leur source dans 2 Samuel chapitre 7, un épisode de la vie de David autour de l'an 1000 ans avant Jésus-Christ. Presque 3 siècles plus tard, le prophète Ésaïe annonce la venue d'un homme qui siégera sur le trône de son père David, mais qui serait aussi appelé admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, Ésaïe 9. Dans son premier chapitre, Matthieu prend comme point de départ cette anticipation vétérotestamentaire. Puis, au deuxième chapitre du livre, les mages demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Ensuite, Jésus commence son ministère public en discourant sans cesse sur le royaume, sa nature, sa venue imminente, sa réalisation finale. Dans diverses paraboles dites « du royaume », c'est Jésus lui-même qui est représenté par le roi que le récit met en scène. Ce même thème est encore repris dans la comparution de Jésus devant Pilate. Dans Matthieu 27, 11, le gouverneur romain pose la question à Jésus « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répond « Tu le dis ». Mais sa réponse, quoique affirmative, reste empreinte d'une faible indétermination parce que Jésus sait fort bien qu'il n'est pas un roi pouvant inspirer quelque crainte à Pilate. Son règne ne constitue en rien une menace militaire pour César. D'ailleurs, Pilate lui-même en vient rapidement à la conclusion que même si Jésus prétend être le roi des Juifs, il ne constitue aucune menace politique immédiate. Et dès lors, il tente de le faire relâcher. Cependant, les aveux ont été entendus et en conséquence, Jésus encourt la peine capitale pour haute trahison. Et pendant que les soldats se moquent de Jésus, le roi des Juifs, il est clair que Matthieu sait, que les lecteurs savent, que Dieu lui-même sait que Jésus est bel et bien le roi des Juifs. À y regarder de plus près, l'ironie dans ce passage s'exprime à 2 niveaux. À un premier niveau, les moqueries des soldats étaient intentionnellement ironiques. Lorsque s'éclament « Salut, roi des Juifs », ils veulent dire exactement le contraire. Ce Jésus n'est pas un roi, c'est un pathétique criminel juif. Les soldats pensent sans aucun doute que leur ironie est à la fois brillante et comique. Mais Matthieu perçoit l'ironie à un niveau plus profond encore. En réalité, alors que les soldats rebaissent Jésus au rang d'un criminel pathétique, les mots même qu'ils emploient expriment la vérité, exactement le contraire de ce que les soldats veulent dire. Jésus est vraiment le roi. Et c'est précisément ce que veut communiquer ce passage. L'homme dont on se moque en le disant roi est véritablement roi. Ceux qui connaissent un tant soit peu leur Bible savent que Jésus est bien plus que le roi des Juifs. Il règne sur l'univers. Il est le Seigneur de tout et de tous. Matthieu lui-même rend cette vérité explicite à la fin de son évangile. Après la résurrection, Jésus déclare que toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Cette autorité n'est rien de moins que l'autorité divine. Il est le roi de l'univers. Il règne sur les soldats qui se moquent de lui. Il règne sur vous et sur moi. Et un jour, l'apôtre Paul le certifie. Tout genou fléchira devant lui. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. L'homme dont on se moque en le disant roi est bel et bien roi. Mais il nous faut creuser un peu plus profondément. De quelle sorte de royauté est-il question dans la pensée de Jésus? De quelle manière est-il roi? Le premier siècle était étranger à la notion d'une monarchie constitutionnelle, comme celle que l'on connaît en Grande-Bretagne, par exemple. en vertu de laquelle un monarque ne dispose d'aucune autorité réelle, si ce n'est sur un plan moral. Dans l'ancien monde, les rois régnaient. C'est ce qu'ils faisaient. C'est ainsi qu'ils concevaient la royauté. D'ailleurs, c'est ainsi que jusqu'à assez récemment, on concevait la royauté à travers les siècles. Louis XIV n'était pas un roi selon la conception monarchique constitutionnelle actuelle de la Grande-Bretagne. La question se pose donc dans la pensée de Matthieu, quelle sorte de roi est Jésus? Si celui est sur le point d'être mis à mort sur une croix, est-il un roi manqué? Encore une fois, Matthieu nous a déjà fait concevoir, entrevoir la réalité de la royauté de Jésus. Jetons un coup d'œil sur cette très intéressante conversation qui est relatée dans Matthieu 20 à 28. La mère des apôtres Jacques et Jean s'approche de Jésus avec ses deux fils pour lui faire une requête. « Que veux-tu ? » lui demande Jésus. Et il répond, « Ordonne que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » 20-21. Il apparaît clairement que la mère et ses fils s'attendaient à ce que Jésus soit couronné roi dans un sens naturel, historique, physique, et qu'il ferait de ses apôtres des membres de son cabinet. Et ils espéraient que eux, Jacques et Jean, seraient nommés aux fonctions convoitées de premier ministre et de ministre de l'État. Jésus répond qu'ils ne savent pas ce qu'ils demandent. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Faisant allusion aux souffrances qu'il attendait incessamment, avec un ton de complète suffisance, aveugle dans leur monumentale ignorance, Jacques et Jean répondent, nous le pouvons. Nous pouvons presque imaginer Jésus en train de sourire intérieurement. Eh bien, oui, dans un certain sens, c'est vrai. Ils vont boire de cette coupe de souffrance. L'un des deux frères sera décapité, devenant ainsi le premier martyr apostolique. Et le second mourra en exil sur l'île de Patmos. Ils en boiront. Toutefois, Jésus n'a pas pour rôle d'accorder à quiconque le droit de siéger à sa droite ou à sa gauche. C'est un rôle que le Père s'est réservé pour lui-même. Lorsque les 10 autres apôtres entendent la demande de Jacques et Jean et de leur mère, ils sont outrés. Non, bien sûr, à cause de l'arrogance et de l'impertinence de leur requête, mais parce que les 10 se voient laissés pour compte et qu'ils n'ont pas pu présenter leur requête les premiers. Alors Jésus les réunit autour de lui et leur dit, 20-25, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. » C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dans ces quelques lignes, Jésus donne l'une de ses plus lumineuses explications sur la nature du royaume. Il ne faut pas se méprendre sur le sens de cette importante et profonde déclaration. Jésus ne veut pas dire qu'il n'exerce pas une certaine autorité. Manifestement, c'est le cas. Et dans ces derniers versets, nous l'avons vu, Matthieu nous rappelle que Jésus s'attribue toute autorité dans les cieux et sur la terre. Voici ce que Jésus donc veut plutôt dire. Les rois, les dirigeants et les présidents de ce monde déchu exercent leur autorité en étant mus profondément par une soif d'avancement personnel, par le besoin d'être et de demeurer le numéro un, ou même par le simple désir de posséder un titre et les droits uniques qui s'accompagnent ce titre. À l'opposé, Jésus exerce son autorité de manière à rechercher le bien de ses sujets, ce qui ultimement le mène à la croix. Il n'est pas venu pour être servi, comme si cela pouvait constituer un but en soi. Même dans sa mission souveraine, il vient pour servir, pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et ceux qui exercent une autorité à quelque niveau que ce soit dans le royaume où Jésus est roi, doivent eux aussi servir de la même manière. Sans désir implicite ou explicite d'avancement personnel, sans être imbu du droit de diriger, ou encore du désir d'être assis à la droite ou à la gauche de Jésus, ils doivent tout simplement être remplis du désir passionné de servir. Il n'est donc pas étonnant que Pilate n'y comprenne rien quant à savoir qui est ce Jésus. Jésus se disait roi, mais il n'avait aucune des prétentions des monarques de ce monde. Il n'est pas surprenant qu'au cours des 3 siècles suivants, les chrétiens diraient d'une manière profondément ironique que Jésus règne sur la croix. C'est la première ironie du tableau de la crucifixion de Jésus. Deuxièmement, l'homme qui est privé de tout pouvoir a tout pouvoir. L'homme qui est privé de tout pouvoir a tout pouvoir. Verset 32 à verset 40. Je ne puis prendre le temps d'entrer dans tous les détails subtils du texte de Matthieu, mais il est manifeste que Matthieu fournit suffisamment d'éléments de preuve pour montrer à quel point Jésus est faible et sans pouvoir aucun. Dans l'ancien monde romain, la partie verticale de la croix restait d'ordinaire plantée en permanence sur les lieux de la crucifixion. En général, le long d'un chemin public ou à la croisée de routes importantes, de façon à ce que le plus grand nombre possible de gens puissent voir la souffrance des suppliciés et apprendre à craindre le pouvoir impérial de Rome. C'est le supplicié lui-même qui transportait la portion horizontale de la croix au lieu d'exécution. Une fois sur place, on attachait ou on clouait le condamné sur le travers de bois que l'on hissait ensuite pour le suspendre au montant vertical. Mais Jésus est tellement affaibli qu'il est incapable de porter cette pièce de bois au lieu d'exécution. Les soldats appliquent alors la loi romaine qui leur permet de forcer un spectateur à porter le fardeau du supplicié. Un dénommé Simon de Cyrène est recruté pour exécuter la tâche, verset 32. On crucifiait les condamnés complètement nus. La croix devait servir d'instrument aussi bien d'humiliation que de torture. Et les soldats ont tiré au sort pour déterminer lequel d'entre eux allait hériter les vêtements de Jésus. Il est difficile d'imaginer comment on pourrait peindre un portrait plus parlant pour décrire l'impuissance totale de Jésus. Suivent ensuite les moqueries qui sont autant d'éléments de preuve qui attestent la faiblesse et l'impuissance de Jésus. Verset 39. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Afin de comprendre pourquoi Matthieu rapporte ces propos injurieux, il faut rappeler que la question de la destruction du temple par Jésus a été introduite un peu plus tôt dans le texte. Lors du procès de Jésus, cette fois devant le souverain sacrificateur, les autorités faisaient des pieds et des mains pour trouver des témoins convenables afin de condamner irrémédiablement Jésus. Matthieu 26, 61 rapporte que 2 témoins finissent par se présenter et disent « Celui-là a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » C'était là une accusation potentiellement très grave. En effet, les Romains craignaient les conflits entre peuples de religions différentes. Ainsi ont-ils fait de la profanation d'un temple, n'importe quel temple, un crime capital. Si les paroles de Jésus au sujet de la destruction du temple de Dieu pouvaient être interprétées comme une intention délibérée de porter atteinte au temple, ils auraient en main un chef d'accusation imparable. Mais cette possibilité légale tombe à l'eau dans Matthieu 26. Les passages parallèles des évangiles nous apprennent que les témoins ne sont même pas arrivés à s'entendre sur les faits. En fin de compte, les autorités déclarent Jésus coupable de trahison et délaissent le chef d'accusation pour profanation de temple. Mais les propos de Jésus ont procuré beaucoup de plaisir aux moqueurs. Avec désinvolture, Jésus avait dit qu'il allait détruire et rebâtir le temple en 3 jours. De quelle sorte de pouvoir disposait-il pour accomplir ce prodige? Avec nos techniques modernes de construction, il est possible de monter une maison préfabriquée en 1 jour ou 2, un gratte-ciel en 1 an ou 2. Cependant, sur le plan historique, cette sorte de construction éclair est un développement très récent. La construction de toutes les grandes cathédrales d'Europe s'est étalée sur plusieurs générations. Aucun des premiers architectes n'a jamais pu admirer l'œuvre dans son état achevé. D'autre part, les ouvriers qui ont construit le temple à Jérusalem étaient soumis à des contraintes additionnelles. Il était interdit d'utiliser le marteau de tailleur de pierre à proximité du site du temple. Chacune des grandes pierres devait être mesurée, taillée ailleurs, puis on devait les amener une à une au moyen des seules forces animales ou humaines, sans pouvoir compter sur la force hydraulique. Puis voilà Jésus qui annonce avec aisance qu'il peut détruire un temple et le reconstruire en 3 jours. De quel pouvoir dispose-t-il? Quelle puissance surnaturelle peut bien être la sienne? Mais voilà, Jésus est suspendu, privé de tout pouvoir sur une croix romaine. Totalement faible. Ce qui donnait du mordant aux moqueries, c'est justement ce contraste violent entre le pouvoir que Jésus disait posséder et son état de faiblesse extrême sur la croix. Une fois de plus, les moqueurs versent à cœur joie dans la plus fine ironie. Jésus se déclare puissant, très puissant. À présent, regardez-le réduit à une plus que totale impuissance. Alors lui lance-t-il, « Puisque tu es si fort, sauve-toi toi-même. » Bien évidemment, il n'en croit rien. Il patauge à plaisir dans l'ironie, car ils sont convaincus que Jésus est totalement incapable de s'en sortir. Il ne peut plus rien. Mais les apôtres savent, les lecteurs des évangiles savent, et Dieu sait que la démonstration de la puissance de Jésus est manifestée précisément dans la faiblesse de la croix. Parce que nous avons lu l'évangile de Jean, en particulier le chapitre 2, nous savons ce que Jésus a vraiment dit au sujet du temple. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Jean 2, 19. Selon Jean, les adversaires de Jésus n'avaient pas la moindre idée de ce qu'il voulait dire. Plus encore, les disciples de Jésus eux-mêmes à ce moment-là ne savaient pas de quoi Jésus parlait. Mais Jean précise qu'après que Jésus soit ressuscité d'entre les morts, ses disciples sont compris. Jésus avait dit cela et ils ont cru à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ils comprenaient que Jésus parlait du temple de son corps. L'idée essentielle, c'est que selon la stipulation de l'ancienne alliance, le temple était le lieu privilégié où le Dieu saint rencontrait son peuple pécheur. C'était un lieu de sacrifice, le lieu de l'expiation pour le péché. Mais de ce côté-ci de la croix, sur laquelle Jésus paie pour nos péchés par son sacrifice, Jésus lui-même devient le lieu privilégié où le Dieu saint rencontre son peuple pécheur. Ainsi, Jésus lui-même devient le temple, le lieu où Jésus rencontre son peuple pécheur. Mais ce n'est pas comme si Jésus, dans son incarnation, servait adéquatement du temple de Dieu. Cette manière de voir serait une erreur colossale. Jésus dit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. » C'est dans sa mort et dans sa résurrection, 3 jours plus tard, que Jésus satisfaisait notre besoin et nous réconcilie avec Dieu, devenant le temple, le lieu suprême où Dieu et les pécheurs se rencontrent. Dans les termes de l'apôtre Paul, nous ne prêchons pas simplement Christ, mais nous prêchons Christ crucifié. C'est ici que se conjuguent la gloire, la paradoxe et l'ironie. Une fois de plus, nous sommes en présence de 2 niveaux d'ironie. Les moqueurs se pensent bien malins et drôles alors qu'ils ridiculisent les prétentions de Jésus et ils raillent dans son extrême faiblesse après qu'ils aient déclaré qu'il pouvait détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Mais les apôtres savent, les lecteurs savent, et Dieu sait qu'il y a là une ironie bien plus profonde. C'est précisément en demeurant sur la croix, dans sa pitoyable faiblesse, que Jésus se constitue lui-même comme temple de Dieu et parvient à la résurrection dans la plénitude de sa puissance. Le seul moyen par lequel Jésus pourra se sauver lui-même et pourra sauver son peuple, c'est en restant suspendu, privé de tout pouvoir, sur cette croix maudite. Les mots que les moqueurs prennent pour des insultes et des sarcasmes méprisants décrivent en réalité ce qui permettrait la réalisation du salut de Dieu. L'homme qui est privé de tout pouvoir a tout pouvoir. Si j'avais le temps, je démontrerais aussi que le même principe opère dans nous, les disciples de Jésus-Christ. Méditez Matthieu chapitre 16, verset 20 et suivant. Troisièmement, l'homme qui ne peut se sauver lui-même sauve les autres. L'homme qui ne peut se sauver lui-même sauve les autres. Les sarcasmes se poursuivent au verset 41 et 42. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Que signifie le verbe « sauver » Si l'on demandait à quelqu'un au hasard dans la rue de Paris, dans les rues de Paris, ce que signifie ce verbe « sauver », quelle serait la réponse, pensez-vous? On peut dire qu'en dehors du discours religieux, « sauver » a une signification essentiellement temporelle, voire matérielle. Dans une situation financière catastrophique, un petit épargnant pensera, par exemple, à sauver les meubles. Au milieu d'un scandale politique risquant de déclabousser, un député songera à sauver son honneur. Dans un navire en perdition, un capitaine pensera à sauver la vie des passagers. Et l'armateur, peut-être, espérera aussi sauver la cargaison. Dans une entreprise en difficulté, les travailleurs opteront pour la solution qui sauvera des emplois. Et dans la bonne société, beaucoup s'entendent à penser qu'il faut sauver les apparences. Et si, comme moi, il vous arrive d'aller au Québec, vous saurez que là-bas, les gens sauvent du temps et de l'argent aussi. Bien entendu, les marqueurs ne pensaient à rien de tout cela lorsqu'ils raillent le Seigneur en disant qu'apparemment, il a sauvé les autres. C'est-à-dire, il a guéri les malades, chassé des démons, nourri des affamés, et à l'occasion, il a ressuscité des morts. Mais à présent, il ne peut se sauver lui-même pour échapper à l'exécution. En fin de compte, c'est un bien piètre sauveur. Donc, même leur déclaration formelle, à savoir que Jésus a sauvé les autres, est lancée avec ironie, dans un contexte de doute total quant à sa capacité de sauver. Ce sauveur en puissance, finalement, est un incompétent et un nul. Et les moqueurs rient de leur répartie sarcastique. Mais encore une fois, les moqueurs n'ont aucune idée de la signification réelle des propos qu'ils tiennent. Matthieu sait, le lecteur sait, et Dieu sait que dans un sens profond, Jésus ne peut se sauver lui-même s'il doit sauver les autres. Dès le départ, il faut voir de quelle manière Matthieu introduit le verbe « sauver » dans son livre. Le terme apparaît pour la première fois au chapitre 1. Dieu annonce à Joseph que l'enfant que porte sa fiancée vient du Saint-Esprit. Puis Dieu ordonne à Joseph, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le nom Jésus est la forme hellénisée du nom Josué, c'est-à-dire, grosso modo, Yahvé sauve. Ainsi, dès le début de son évangile, Matthieu explique pourquoi Dieu a choisi ce nom Jésus. Par ce moyen, Matthieu donne à comprendre à ses lecteurs la véritable nature de la mission de Jésus. Jésus est venu afin de sauver son peuple de ses péchés. Je pourrais démontrer que cette information préalable colore l'évangile d'un bout à l'autre. Et finalement, nous arrivons à cette étape. Quand j'étais jeune, j'avais une imagination pas mal débridée. Encore plus débridée, je pense, que celle que j'ai aujourd'hui. Je m'amusais parfois à lire une histoire et, m'arrêtant à un moment crucial du récit, à me demander comment l'intrigue rebondirait si certains éléments centraux du récit étaient changés. Mon histoire biblique favorite pour mener cet exercice douteux était le récit de la crucifixion de Jésus. Les moqueurs lancent leur sarcasme ironique. « Il a sauvé les autres !» Mais il ne peut se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Dans mon imagination, je vois Jésus rassembler ses forces et, se libérant de la croix, bondir soudainement sur le sol, complètement guéri, demandant qu'on lui donne un vêtement. Qu'arriverait-il? Comment le récit se poursuivrait-il? Croirait-il en lui? Dans un certain sens, bien sûr, ils auraient cru. Après tout, cela aurait été une démonstration assez remarquable et plutôt convaincante de puissance, et les moqueurs auraient bien vite battu en retraite. Mais dans un sens pleinement chrétien, auraient-ils cru en lui? Bien sûr que non. Croire, dans un sens chrétien, veut dire mettre toute sa confiance en Jésus qui a porté nos péchés dans son propre corps sur la croix, en celui-là dont la vie, la mort et la résurrection offertes à notre place nous ont réconciliés avec Dieu. Si Jésus était descendu de la croix, les moqueurs et les autres spectateurs n'auraient pas pu croire en Jésus dans ce sens parce qu'il ne serait pas offert lui-même en sacrifice pour nous. Il n'y aura rien qui appelle notre confiance, sauf notre propre justice, futile et vide. Les propos des moqueurs prennent tout à coup un sens nouveau. Il a sauvé les autres, mais il ne peut se sauver lui-même. À un niveau plus profond, l'ironie, c'est qu'il disait vrai. mais n'en avaient aucune idée. Si Jésus s'était sauvé lui-même, il n'aurait pas pu sauver les autres. Le seul moyen qu'il avait pour sauver les autres, c'était précisément en ne se sauvant pas lui-même. L'ironie sous-jacente à l'ironie que les moqueurs déployaient, c'est qu'ils affirmaient une vérité qu'eux-mêmes ne saisissaient pas. L'homme qui ne peut se sauver lui-même sauve les autres. J'aurais bien aimé pousser ce point davantage, mais j'arrive finalement à la dernière ironie. L'homme qui crie de désespoir fait pleinement confiance à Dieu. L'homme qui crie de désespoir fait pleinement confiance à Dieu. Verset 43 et suivant. Continuant à se moquer de Jésus, les principaux sacrificateurs, les docteurs de la loi et les anciens disent, « Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il aime, car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Encore une fois, leur parole se veut sarcastique et ironique. Ils disent de Jésus, il s'est confié en Dieu, mais ce qu'ils veulent dire, évidemment, c'est que sa confiance ne pouvait être vraie, ne pouvait être valide, car Dieu lui-même l'avait abandonné. Sinon, pourquoi serait-il pendu à cet horrible instrument de torture, condamné par le monde et par Dieu? Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière, verset 44. Certes, à première vue, le cri de désolation que pousse Jésus semble légitimer le scepticisme amer des moqueurs qui doutent de la confiance de Jésus en Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Certains commentateurs récents soutiennent que ces paroles montrent qu'à ce moment-là, Jésus en fait perd confiance en Dieu. Et ils en tirent l'application pastorale suivante. Si Jésus lui-même peut craquer lorsque la pression est trop forte, alors il n'est pas trop étonnant que nous aussi, parfois, nous puissions craquer. Nous ne devrions pas être trop durs avec nous-mêmes, conclut-il. Lorsque notre foi en Dieu vacille, lorsque nous perdons confiance en Dieu, puisque Jésus lui-même a perdu confiance en son Père céleste. Mais cette lecture du passage, appelons-la la thèse de l'apitoiement de Jésus sur son sort, ne rend pas justice au contexte. Premièrement, elle ne tient pas compte du fait que dans l'ensemble de cette scène, comme nous l'avons vu, alors que les moqueurs croient rire de Jésus avec ironie, il y a toujours une ironie plus profonde. Il en est de même ici. Matthieu sait, le lecteur sait, et Dieu sait que Jésus a pleine confiance en Dieu. L'ironie sous-jacente du verset 43 consiste en ce que les moqueurs, comme ailleurs, disent vrai. Mais ils n'en savent rien. Jésus, en vérité, fait confiance à son Père céleste. Mais ceci veut dire que son cri de désolation ne peut être compris comme la preuve qu'il ne se confiait pas en Dieu. Deuxièmement, le cri de désolation, nous le savons, est une citation tirée du psaume 22, verset 1, un psaume davidique. Ce psaume est particulièrement riche en expressions de confiance et de foi en Dieu. Si David peut faire entendre un tel cri de souffrance tout en faisant preuve de confiance et inébranlable en Dieu, pourquoi serait-il impensable que le Fils suprême de David puisse lui aussi pousser le même cri tout en faisant preuve de confiance en Dieu? Troisièmement, Jésus vient de traverser des moments d'agonie à Gethsémané. Malgré son extrême répugnance face à la perspective de la croix, Jésus prie, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » En d'autres termes, il n'y a pas l'ombre d'une preuve que Jésus aurait été surpris par la croix. Il savait depuis le début que c'était la volonté de son Père. Et il se déclare résolu à faire la volonté de son Père. Quatrièmement, Jésus a déjà démontré qu'il comprend que c'est pour les autres qu'il meurt. Sa mort sert de rançon pour les pécheurs, de paiement qui garantit la rémission des péchés. Sa mort permet que son sang soit versé, c'est-à-dire qu'un sacrifice sanglant soit offert afin de sceller la nouvelle alliance. Sa mort sert de sacrifice pascal où un agneau meurt comme substitut afin que le peuple de Dieu n'ait pas à mourir. Toutes ces catégories ont été déjà introduites dans Matthieu. Le cri de désolation de Jésus doit donc être interprété en fonction de ce cadre et non en fonction d'un cadre contemporain de pop psychologie qui semble tenir tout particulièrement à la thèse de l'apitoiement de Jésus. Cinquièmement, le récit prend bien soin de préciser qu'il y a eu des ténèbres dans le pays. Et que ce sont ces ténèbres qui ont donné lieu au cri angoissé de Jésus. À la lumière de toutes les descriptions qui ont été données jusqu'à présent, ces ténèbres ne peuvent que signaler de quelque façon l'absence de Dieu, le courroux judiciaire du Père, quand bien même ce sacrifice du Fils faisait partie du plan indescriptible et merveilleux du Père, pendant que le poids accablant du péché et de la culpabilité écrase Jésus, qui tout seul porte la condamnation. Le souffle coupé, comme saisi de vertige, nous scrutons là le mystère de la Trinité. Mystère de l'amour incomparable du Dieu en trois personnes manifesté dans le sacrifice de la croix, dans la mort pénale et substitutive du Fils de Dieu incarné et éternel, Emmanuel, Dieu avec nous. Sixièmement, au moment même où Jésus rend l'esprit, verset 50, Matthieu rapporte que le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. Matthieu n'est pas en train de rapporter un simple détail circonstanciel d'intérêt général. Le report de la destruction du voile revêt un caractère essentiellement théologique. Jusqu'à ce moment dans l'histoire, le voile signifiait que seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans la présence de Dieu saint. Et ce, une seule fois par année, au jour des expiations. En plus, l'ancienne alliance prescrivait que le souverain sacrificateur, lorsqu'il passait derrière la voile, devait apporter avec lui le sang d'un taureau et d'un bouc qui avait été égorgé, la mort de ces animaux devait servir de substitution afin de détourner la colère de Dieu et de payer pour les péchés du prêtre et du peuple. Mais le voile déchiré signale maintenant que l'entrée dans la présence de Dieu est ouverte pour quiconque. Car le sang versé de Jésus a opéré le paiement complet et final pour les péchés. Et septièmement, les diverses résurrections temporaires qui se sont produites au même moment, versets 51 à 53, doivent être interprétées exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'elles signalent le commencement de la destruction de la mort elle-même, le renversement du péché et de toutes ses conséquences. C'est la quatrième ironie. L'homme qui crie de désespoir fait pleinement confiance à Dieu. Méditons un court instant encore sur les ironies de la croix. Numéro 1, l'homme dont on se moque en le disant roi est bel et bien roi. Numéro 2, l'homme qui est privé de tout pouvoir a tout pouvoir. Numéro 3, l'homme qui ne peut se sauver lui-même sauve les autres. Quatrièmement, l'homme qui crie de désespoir fait pleinement confiance à Dieu. En ce jour d'horreur, jour effroyable, on entendait rire dans la garnison, acclamer le roi, le raillaient les gardes, en crachant sur lui, en le brutalisant. Couronné d'épines, bien qu'il soit né sauveur, royauté voilée par le sang versé, ses bourreaux aveugles à la gloire céleste, Jésus règne d'une croix ensanglantée. Dieu fait homme, marqué par la torture, affaibli, ne pouvant porter le bois, dénudé, cloué par la soldature, accroché là sur l'infâme bois. Les moqueurs s'écrient, « S'il est le Messie, qu'il se sauve lui-même, et nous croirons !» Mais confiant en Dieu, Jésus sait que sa mort est le seul moyen pour la rédemption. C'est lui qui disait prendre soin des autres, lui venu chercher et sauver les perdus. Comment croire qu'il peut en sauver d'autres, cloués à la croix, maudits, déchus? Toi qui dis pouvoir construire le temple, sauve-toi si tu es le Fils de Dieu. Il ne se doutait pas que Dieu, dans sa sagesse, expiait le péché par son propre sang. Du fond des ténèbres, Jésus crie d'angoisse, « Pourquoi, ô mon Dieu, m'as-tu abandonné ?» Mais rejeté, banni à notre place, il endure la colère pour mes péchés. Le vrai temple de Dieu est tombé à terre. A-t-il été vaincu? Il est enterré. Mais, ô victoire divine, il se relève. Notre temple est le Fils ressuscité. Jésus, le Fils de Dieu, est ressuscité. Amen.